Alors, marié, oui. Papa, oui. Beau, voilà. Je me suis pas reconnu tout de suite. Bon, merci. Je jette un coup d'œil sur l'heure pour ne pas dépasser. Donc, bonjour à tous. Ce matin, j'avais à cœur de vous raconter une anecdote en guise d'introduction, parce que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis enseignant, et il y a 7 ans de cela, j'enseignais à une classe de seconde. Le programme porte sur l'époque médiévale, et il fallait, lors d'une activité, analyser, que les élèves prennent quelques instants pour analyser une église et les différentes parties d'une église. Bon. Et on consacre 10 minutes, seulement 10 minutes, dans l'heure, pour analyser le tympan d'une église. Vous savez, c'est ce qu'il y a en arc de cercle au-dessus des portes d'entrée. Et c'est en général sculpté. 90% des temps, c'est une scène qui représente le jugement dernier. Et ça permettait aux gens de l'époque qui ne savaient pas lire et écrire de comprendre la scène. On la décrit assez rapidement. Jésus qui est au centre, qui envoie ceux qui ont mis leur confiance en lui au paradis et ceux qui l'ont refusé en enfer. Bon, ça s'arrête là, les élèves font une activité pendant 10 minutes et puis après on passe à autre chose. Et il y a une élève qui, au moment où tout le monde sort, vient me voir à la fin du cours et qui me dit très sérieusement, « Monsieur, est-ce que vous pouvez arrêter de parler du jugement dernier parce que ça m'angoisse ?» Elle était sincèrement saisie d'angoisse. Alors, bon, j'ai prié pour elle dans mon cœur. Mais c'est vrai qu'il y a des mots comme ça, Dieu, l'Apocalypse, qui sont très différemment reçus que l'on soit chrétien ou non chrétien. Et le titre de ce message, c'est « Dieu et ma vie ». Et nous développerons en particulier le regard que Dieu porte sur ma vie. Et imaginez que le Seigneur regarde ma vie en cet instant même, ça peut être source d'une terrible angoisse pour une personne qui ne le connaît pas du tout. Ça peut être source peut-être d'inconfort pour certains. Et à l'inverse, peut-être que pour quelqu'un qui passe par un moment de souffrance et de difficulté, au contraire, ça peut être une joie et une bénédiction de savoir que Dieu a un regard sur sa vie. Donc c'est tout cela que l'on va voir ce matin. Et le Seigneur voulait aussi nous inviter à ne pas se conformer au monde qui est inspiré par le diable, qui est le père du mensonge. Et il y a aussi, en préparant ce message, le Seigneur me mettait à cœur justement de proclamer haut et fort les vérités du Seigneur pour abattre parfois les paroles de mensonge que le monde dit sur vos vies, sur nos vies. Le plan de ce matin, très simple, en deux parties. On verra dans un premier temps le regard que Dieu porte sur nos vies, ce que Dieu dit de ma vie. Et dans une deuxième partie, nous verrons le plan qu'il a prévu pour nous et son aide pour nous aider à justement pour l'accomplir. Et c'est pour ça que Norbert, je ne sais plus où tu es, la prière que tu as faite, c'est une parfaite introduction, une parole de grâce, parole de paix. Merci pour ta main tendue, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est ce que nous allons voir. Le Seigneur ne nous laisse pas nous débattre seuls dans notre vie, mais il est là et il nous aide et il nous aime. Donc, dès la création du monde, Dieu a montré sa toute-puissance. Le premier verbe, Dieu créa. Dieu créateur. Et le deuxième verset qui suit, Dieu dit et Dieu vit. Donc, dès le départ, on voit que Dieu est le tout-puissant, mais aussi il s'intéresse à sa création. Il y a énormément de récits, des mythologies ou autres, où on a en fait des dieux qui sont créateurs et puis ensuite, hop, débrouillez-vous les humains, je ne gère plus. Non, non, non seulement il est créateur, mais en plus, il regarde ce qui se passe et il vit et il dit. Et sa parole est créatrice. Donc oui, dès le commencement, ce grand Dieu de l'univers, il s'intéresse aux hommes. Et ce grand Dieu s'intéresse aussi à la vie de chacun individuellement. C'est significatif parce que c'est dans la Genèse. Et souvent, quand on discute parfois avec des personnes, ils ont cette mauvaise compréhension de Dieu, qui est un mensonge, qui est véhiculé par le diable, qui serait qu'il y a un Dieu de l'Ancien Testament qui serait très distant et très méchant et très à l'écart, et un Dieu du Nouveau Testament qui serait différent et tout plein d'amour. En fait, c'est exactement le même. Et dès le début, on voit l'amour de Dieu. Dès les tout premiers versets, on voit que Dieu s'intéresse aux hommes. J'aimerais lire avec vous Jean 9, et on tirera de Jean 9 trois éléments trois vérités que le Seigneur dit sur notre vie. Donc Jean 9, verset 1. Alors verset 1 à 34, mais je ferai quelques petites coupures dans le passage pour quand même qu'on puisse, pour que ce soit digeste et qu'on puisse aller à l'essentiel. Jean 9, verset 1. En partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents ?» Jésus répondit. « Cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tout puisse voir ce que Dieu est capable de faire. » Donc je fais un saut. Cet homme est guéri. La guérison intervient le jour du sabbat. Et il y a des pharisiens qui demandent à voir cet aveugle qui est guéri. Déjà, il y a un doute pour savoir si est-ce que vraiment il était aveugle-né. Et puis, face à cette guérison qui est manifeste, ils vont se poser la question, mais alors finalement, quelle est la nature de Jésus ? De quelle autorité il le fait ? Et ils vont refuser d'entendre que Jésus est le Messie. Donc je reprends la lecture. Les pharisiens dirent à cet aveugle guéri, « Honore Dieu en disant la vérité. Cet homme est un pécheur, nous le savons. S'il est pécheur ou non, répondit-il, je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui demandèrent de nouveau, « Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Redis-nous comment il s'y est pris pour t'ouvrir les yeux. »« Je vous l'ai déjà dit, lui répondit-il, et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi tenez-vous à me le faire répéter ? Est-ce que par hasard vous avez l'intention de devenir vous aussi ses disciples ?» Et là, la réaction du monde, ils se mirent à l'injurier et lui lancèrent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes les disciples de Moïse. » Nous verrons d'ailleurs plus tard l'impact de Dieu dans la vie de Moïse. « Nous, nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. » « C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous, vous ne savez pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à sa volonté, si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. » Et quelle est la réaction des pharisiens, « Comment ? » répondirent-ils. « Depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête et c'est toi qui veux nous faire la leçon. » Et ils le mirent à la porte. « Depuis ta naissance, tu n'es que péché des pieds à la tête. Bon. » Voilà ce que produit le monde. Des paroles de destruction, des paroles de mort. En disant ça, les pharisiens, oui, tout homme est pécheur, mais en disant ça, les pharisiens se mettent au-dessus. Ils savent que c'est un sujet, puisque même les disciples passent à côté, et donc se posent la question, c'est un sujet de souffrance pour cet homme. Eh bien, là, ici, les responsables religieux vont appuyer dessus en disant, mais voilà, voilà ce que tu es, toi, tu es du péché, le péché des pieds à la tête. Donc, en gros, en fait, pourquoi on parlerait avec toi ? Et peut-être qu'il y a des personnes qui ont entendu ce genre de propos destructeurs sur leur vie. De la part de figures d'autorité, ça peut être leurs parents, ça peut être leurs proches, ça peut être parfois responsable religieux, ou ça peut être à l'école. Et bien ces propos-là, destructeurs et mensongers, ils sont faux parce qu'ils sont produits par le père du mensonge, par le diable qui inspire le monde. La Bible nous enseigne que Dieu, notre Créateur, nous a désirés et créés parfaitement selon sa volonté. Et que personne n'a le droit de vous dévaloriser, ni les autres, ni vous-même. Ésaïe 45, verset 9. « Malheur à qui conteste avec son Créateur. L'argile dira-t-elle à celui qui la forme, qu'es-tu en train de faire ? Et ou l'œuvre à son potier, tu n'es qu'un maladroit. Malheur à qui dit à un père, qu'as-tu engendré là ? Ou bien à une femme, qu'as-tu donc mis au monde ? Malheur à qui vous a dit, tu n'as pas été désiré, parce que c'est faux. Malheur à qui vous a dit, tu es une anomalie, parce que c'est faux. Ça aurait été mieux que tu sois différent, ça aussi c'est faux. Ainsi dit l'Éternel, lui le Saint d'Israël, lui qui l'a formé, oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir, ou me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et au sujet de l'œuvre que mes mains ont créée ? Voilà le regard et la réalité de l'amour de Dieu sur nos vies. Voilà aussi le regard d'amour qu'on doit porter sur les autres. Donc oui, Dieu m'a voulu, Dieu m'a désiré, il m'a créé tel qu'il voudrait, tel qu'il voulait, pardon, que je sois, et non, je ne suis pas le fruit du hasard. C'est une réalité, et il faut le dire, parce que peut-être que ça peut être une parole de consolation pour certains. Un autre mensonge, ce serait de croire que si Dieu existe, on l'a dit tout à l'heure, il serait bien trop grand est bien trop majestueux pour s'occuper de moi. Mais ça encore, c'est un mensonge. Parce que cette vérité, elle apparaît d'un bout à l'autre de la Bible. Dans l'Ancien Testament, Jérémie dit ceci. Avant que je ne te forme dans le... Enfin, il rapporte les propos que lui dit l'Éternel, que lui adresse l'Éternel. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Le psalmiste rajoute, Éternel, tu me sondes et tu me connais. David, dans sa prière, disait, plongeons-nous dans les psaumes parce que c'est le cœur de Dieu qui parle et c'est l'être humain qui s'adresse à lui. Écoutez ça, quand je suis assis et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tous mes chemins te sont familiers. Et là, dans le passage qu'on a lu dans Jean 9, lorsqu'il y a Jésus qui passe à côté de cet aveugle-né, il y a les disciples qui lui disent « Est-ce que c'est à cause de son péché ou du péché de ses parents ?» Et Jésus, il n'a pas dit « Je ne connais pas cet homme » ou « Il faut que je prenne juste un petit temps pour discuter avec lui et j'en saurai un peu plus. » Il a un regard sur sa vie, il connaît exactement qui est cette personne. Il dit « Non, ce ne sont pas ses péchés. » Et il connaît également la vie de ses parents. Il dit « Ce ne sont pas non plus les péchés de ses parents. » Donc, Dieu s'intéresse à moi. Et c'est un mensonge de croire que nous serions anonymes pour un Dieu qui serait lointain. En réalité, c'est tout l'inverse. Dieu est un Dieu proche, majestueux et tout-puissant, certes, mais proche, et qui s'intéresse à nous et qui cherche une relation avec nous. Et en préparant ce message aussi, le Seigneur me mettait à cœur de lire cette parole pour des personnes qui, justement, traverseraient un temps de souffrance. Et c'est une parole que le Seigneur va leur adresser et se trouve dans Exode. Le Seigneur dit « Oui, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, oui, je sais ce qu'il souffre. » Ce matin, le Seigneur veut te dire si tu traverses un temps de souffrance. Et c'est de la part du Seigneur. Oui, et rajoutez votre prénom. Oui, je sais ce que tu souffres. Je te vois. Tu es pas seul. Troisième réalité que la Bible enseigne, j'ai dû prier aux yeux de Dieu. Il m'aime et il veut me sauver. On pense immédiatement quand on dit que Jésus même a presque le verset qui résume l'évangile dans sa totalité, c'est Jean 3,16. Mais peut-être certains n'ont jamais entendu, alors je le lis. « Car Dieu a tant aimé, il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, la question « Qu'est-ce que je peux faire pour être aimé par Dieu ?» Rien. Rien du tout. L'amour de Dieu pour chacun et de nous est inconditionnel. Il n'y a pas de condition. Il m'aime. Quel que soit mon arrière-plan, religieux ou autre, ce que je fais, ce que je n'ai pas fait, peu importe, Dieu m'aime. Jean 3, verset 17, la suite. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais, et il y a un mais, celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. L'évangile, littéralement la bonne nouvelle, c'est que notre Dieu est un Dieu d'amour, un amour immense qui dépasse l'imagination, mais c'est aussi un Dieu de justice, un Dieu qui est saint. Et Ézéchiel dit un Dieu qui ne transige pas avec le péché. Voici en quoi consiste la condamnation de ceux qui n'ont pas mis leur foi en Jésus-Christ. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. Et c'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas sous la bannière de Christ est sous la condamnation de Dieu. Dieu l'aime, mais il est sous sa condamnation. C'est pour ça que si des personnes n'ont pas donné leur vie à Jésus, c'est... un moment, une porte qui s'ouvre, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Rappelons la vérité de Jésus, il est le Fils de Dieu, il est venu dans le monde, non pas pour dire « voilà comment mériter le salut, à vous de le faire », non, non, il est venu pour nous pardonner et pour nous sauver en donnant sa vie, en mourant à notre place. Il l'a fait pour satisfaire à la justice divine, il est mort par amour pour nous, et il a ressuscité et il vit auprès du Père. Donc, si le Seigneur travaille ton cœur, deux questions peuvent te freiner. Est-ce que je suis assez bon pour aller vers Dieu? Est-ce que je suis assez méritant pour aller vers Dieu? Ce n'est pas une question de mérite. C'est simplement une question d'amour. Est-ce que je crois que Jésus-Christ est mort pour moi? Dieu prouve son amour envers moi. En ce qu'étant encore pécheur, Christ est mort pour moi. Tournez-vous autour des chrétiens qui sont dans cette salle. Il n'y a pas un chrétien qui peut dire l'inverse. On était ennemis de Christ avant, et maintenant on est sauvés et enfants de Dieu. Et comment être sauvés ? Il y a cette question qui est posée à Paul et à Silas. Ils sont libérés de prison par une intervention miraculeuse. Et il y a leur geôlier qui va se donner la mort parce que dans l'époque antique, c'était ne pas surveiller ses prisonniers. Et c'était le geôlier qui prenait la peine. Donc il allait se tuer. Et puis, ils lui disent d'arrêter son geste. Et le geôlier dit simplement, Seigneur, que faut-il pour être sauvé ? Paul et Silas ne vont pas lui faire un cours théologique en plusieurs parties et plusieurs volumes. Non. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Tu n'as rien qu'à faire que de croire au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'aveugle de naissance, d'ailleurs, déclare simplement, lorsque Jésus vient le voir et qu'il lui dit « Je suis le Fils de l'homme », l'aveugle de naissance dit « Je crois, Seigneur ». Et il se prosterna devant Dieu. Je bascule sur la partie 2. Mais avant, j'aimerais dire ceci. Dis-toi que si tu es sauvé, c'est en un instant, tu vas être réconcilié avec Dieu. En un instant, c'est un Dieu d'amour qui t'attend les bras grands ouverts. Tu pourras entrer en communion avec lui et être avec lui pour la fin des jours. Et tu pourras faire tienne ces paroles du psaume 56. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as préservé mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi, ô Dieu, à la lumière des vivants. Deuxième passage que j'aimerais lire avec vous se trouve dans Exode 33. Je vais le lire, donc si pas besoin d'y aller, mais c'est Exode 33, verset 7, pour ceux qui s'y intéressent. Lorsque Moïse se rendait à la tente de la rencontre, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. La colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. L'Éternel parlait avec lui face à face comme un homme parle à son ami. C'est une réalité. Nous qui appartenons à Christ, nous parlons à Dieu en ami. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse rajouta, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Voilà le Dieu d'amour que nous servons. Voilà le Dieu d'amour que nous suivons. C'est un Dieu qui n'est pas obscur. C'est un Dieu qui n'est pas qui écraserait, qui est tellement puissant qu'il passe à côté des humains. Et s'il y a un humain qui se trouve sous son pied, tant pis pour cet humain, il écrase. Non, non, au contraire. Il nous prend dans ses mains, dans ses bras et il nous protège. C'est un Dieu qui prend soin de nous parce qu'il nous aime. Le Seigneur a un plan pour notre vie. Le Seigneur a un plan pour la vie de Moïse. Il a un plan aussi pour la vie de chacun d'entre nous. Éphésiens 2 nous dit, « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Cela entraîne deux bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle. Cette réalité, elle est encourageante parce que c'est plus moi qui dois gravir les échelons pour essayer peut-être, à la fin de ma vie, de me rendre compte si j'ai plu à Dieu ou pas. C'est pas à moi d'essayer de réussir ma vie selon les critères du monde. En réalité, le Seigneur, il a préparé à l'avance les œuvres bonnes pour ma vie. J'ai qu'à faire encore plus confiance à Dieu. Prenez mon joug, dit le Seigneur. mon fardeau est doux et léger. Je crois qu'on a parlé de la légèreté ce matin et le repos. Mon fardeau est doux et léger. Donc si je suis encore plus en Christ, ce sera encore plus simple la vie avec lui. Attention, je mettrai un bémol derrière. Une autre bonne nouvelle, nous servons un Dieu de clarté qui s'exprime clairement. Et donc son plan pour notre vie est clair. Ésaïe 45, le Seigneur dit « Je n'ai pas parlé en cachette dans un recoin ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob, écoutez bien, cherchez-moi dans le vide. En effet, moi l'Éternel, je dis ce qui est juste. Je révèle ce qui est droit. » C'est un Dieu de clarté. Et là encore, il y a un mensonge qu'il faut abattre. Un mensonge du monde, ce serait que... Mais c'est même communément admis, et il y a une parole de l'Écriture qui est détournée, c'est « les voies du Seigneur sont impénétrables ». C'est lancé par des personnes qui, quelque part, justifieraient que c'est un Dieu qui est mystérieux, qui est louvoyant, qui est changeant, qui est ambigu, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, et il ne cherche pas à être clair. Non, non, il n'y a rien de plus faux. Lorsque notre Seigneur choisit de nous présenter ses plans, il y a des moments où il ne nous explique pas. Mais lorsqu'il choisit de le faire, il ne nous dit pas « bon, allez, fais ça et puis débrouille-toi pour y aller ». Non, non, il s'exprime très clairement. Et Dieu a un plan précis pour les hommes. Nous n'avons pas à nous débrouiller tout seuls. On te l'a enseigné aux hommes ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. Michée, c'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à la bonté et que tu vives dans l'humilité avec ton Dieu. Romains 12 nous dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » La liste est encore longue pour un Dieu qui est obscur. C'est quand même extrêmement clair. Et enfin, notre bonne nouvelle, c'est que la vie dans laquelle Dieu veut que je rentre, ben, c'est la meilleure pour moi. Elle produira le principal, c'est-à-dire une vie qui rend gloire à Dieu, mais elle portera aussi des fruits dont je bénéficierai. C'est la meilleure pour moi. Une vie rayonnante de joie, dans l'intimité de mon Dieu, en abondance. Et donc je disais, attention néanmoins de ne pas mal comprendre ce qu'enseigne la Bible. Le Seigneur n'a jamais promis des vacances. Il n'a jamais promis que la vie avec lui, c'est évangile de la prospérité, des richesses de partout, aucune ronce qui viendra vous égratigner. Vous allez voir, ça va être facile. Absolument pas. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. S'engager pour Christ, c'est rentrer dans un combat qui est gagné d'avance, mais c'est un combat. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, nous dit le Seigneur. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et le Seigneur rajoute, vous aurez à souffrir dans le monde. Mais il ne nous laisse pas seuls, ce Seigneur qui nous protège. Mais, encore une fois, le mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Deuxième point, où fixons-nous les regards ? La Bible nous sensibilise à l'importance de notre regard. Là, ici, Moïse avait les yeux fixés sur Dieu. Et le Seigneur nous met en garde en nous invitant à veiller dessus, sur notre œil. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc marcher en nouveauté de vie, pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, nécessite un engagement total pour Dieu, c'est-à-dire persévérance sans regarder en arrière. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Je rajouterai un troisième point. Je ne suis pas seul. Le Seigneur me vient en aide dans mes faiblesses et m'équipe. C'est un verset qui dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans la faiblesse. Si un croyant perd de vue l'objectif et fixe ses regards sur le monde plutôt que de fixer ses regards sur Dieu, il va pécher. Et le Seigneur lui dit, si toutefois il arrivait à quelqu'un de pécher, de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, marcher en nouveauté de vie, s'engager dans le plan que le Seigneur a prévu pour nous, c'est avancer les yeux fixés sur Christ, rejeter ce qu'il y a derrière, ne pas regarder en arrière, mais regarder devant, regarder à Christ. Et si jamais on s'en détourne, eh bien, il peut arriver de chuter, mais le Seigneur ne nous dit pas « au revoir et ne te présente plus devant moi ». Non, par sa grâce, il nous donne le moyen, par Jésus-Christ, de pouvoir remarcher et d'aller avec lui. Donc voilà, nous servons un Dieu de grâce, hein. Je l'ai noté dans cette première feuille. Merci pour ta main tendue. Eh bien oui, merci pour ta main tendue, Seigneur. C'est une main tendue constante. Je continue. Nous ne sommes pas orphelins. Par le Saint-Esprit du Seigneur, nous ne sommes pas orphelins. Quant à moi, dit Jésus, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. On n'est pas seul. Le mot grec, le terme grec, traduit pour le consolateur, le défenseur, c'est le paraclète. Ça signifie tout à la fois le consolateur, l'avocat, le conseiller, le défenseur. Eh bien, pour avancer en nouveauté de vie, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il nous donne son Saint-Esprit. Et justement, son Saint-Esprit est là pour nous aider à accomplir le plan que Dieu veut pour notre vie. C'est exactement ce que dit Jude dans le tout dernier verset de son épître. Il dit « À celui qui peut et qui veut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. » Donc, quand c'est trop difficile pour nous, et c'est difficile, tournons-nous vers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est là. Demandons au Saint-Esprit de nous garder de toute chute et de nous faire paraître en sa présence glorieuse. Et assurément, il le fera. Il ne nous laisse pas seuls, il nous a laissé son Saint-Esprit. C'est un Dieu de grâce et il nous a aussi laissé sa parole. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. Elle est utile pour instruire, pour corriger. Elle est vivante et efficace. En cherchant sur Internet une référence pour un verset, je suis tombé sur un texte que je trouvais très bien écrit, qui présentait en des mots très justes les bienfaits de la parole pour le croyant. Et par curiosité, je regardais qui a écrit ce texte. Et c'est pas très loin d'ici, c'est un frère de l'église d'Alès, c'est Jean Hay. Alors, j'avais à cœur de vous lire ce court extrait, justement, sur la parole. « Quand nous aimons et buvons la parole de Dieu, elle alimente notre homme intérieur. Elle y pénètre et elle y loge. Elle le constitue et l'équipe. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Ce lait spirituel nous est donné par Dieu avec trois objectifs. D'une part, nous faire croître dans sa grâce et sa paix, dans la foi et la joie. D'autre part, compenser en nous une déperdition spirituelle due à la chair et aux tentations qui déshydratent l'homme nouveau. En permanence, le monde qui est là pourra nous assécher et ça nous réhydrate, la parole de Dieu. Et troisièmement, elle nous permet aussi de développer des anticorps. Ainsi, fuir les convoitises du monde va amplifier notre part de communion à Dieu. » Pour terminer, j'avais à cœur de vous lire également un autre exemple de vie consacrée. On a vu Moïse, la Moïse qui est rentré dans les plans du Seigneur. Alors, pour lui, ça n'a pas été simple, parce que ça voulait dire abandonner le palais de Pharaon. C'était être méprisé. On a vu que ça a apporté la division dans la famille. Eh bien, on peut dire que sa famille lui a fait littéralement la guerre. Et donc, s'engager pour Christ, il y a des souffrances. Mais derrière, quelle consolation, quelle intimité il a pu avoir avec Dieu. Il a été appelé ami de Dieu, il avait une relation personnelle, il discutait avec Dieu. Et son visage rayonnait de Christ, enfin, de Dieu. Et justement, je voulais citer un autre exemple, mais cette fois-ci un exemple qui, aux yeux du monde, apparaît non pas comme un exemple, mais comme une vie ratée, une fin terminée très rapidement. C'est le cas d'Étienne. Étienne dans la Bible. La Bible nous présente cet homme-là en disant ceci, c'est un homme plein de foi et d'Esprit Saint, rempli de grâce et de la puissance divine, qui accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Étienne annonce la bonne nouvelle, et cela va susciter de nombreuses et fortes oppositions. Il va être arrêté, il va passer en procès devant le Sanhédrin. Il y aura de faux témoignages, des mensonges et des menaces contre lui. La Bible indique que tous ceux qui siégeaient au Grand Conseil avaient les yeux fixés sur Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Là encore, le fruit d'une vie consacrée à Dieu est tournée et fixée vers le Seigneur. Voici les fruits d'un témoignage pour le Seigneur. Et lorsqu'on déborde de Christ, le monde voit la différence. Alors parfois, peut-être que cette différence peut amener à Christ les brebis perdues. Peut-être que cette différence, elle peut encore plus exciter l'animosité des personnes vis-à-vis, la haine vis-à-vis de Dieu. Ben là, ici, c'est l'exemple d'un excellent témoignage pour Dieu, mais qui a excité la haine, parce qu'on dit que son visage était celui d'un ange, et la conséquence, c'est quoi ? Ben, il continue à le menacer et lui interdire de parler de Dieu. Ici, Étienne, il fait face à cette opposition, et lorsqu'il va dire la réalité sur leur aveuglement spirituel, ceux qui siégeaient au Grand Conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne et ils se bouchent les oreilles. Le monde est aveuglé spirituellement et se bouche les oreilles, ne veut pas entendre. Là, ici, en manifestant cela, le Grand Conseil montre que manifestement, ils ne sont pas de Dieu puisqu'ils se bouchent les oreilles. Et regardez, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, quelle est la conséquence ? Vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà le fruit suprême d'une vie consacrée à Christ. C'est une vie qui rend gloire à Dieu. Pour conclure, j'aimerais tout simplement terminer par une prière qui se trouve dans Hébreux et qui renferme un résumé de ce que nous venons de voir. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Soyez bénis.